C'est bon? Voilà, vous m'entendez? Impeccable. Voilà, je laisse le suprunier régler le son pour ne pas qu'on ait de mauvaises surprises. Bonsoir à tous. Nous allons passer un petit moment autour de cet univers du personnage de Faust. Vaste sujet, évidemment. Faust, c'est un vaste sujet littéraire, c'est un vaste sujet historique et c'est aussi un vaste sujet musical. Alors évidemment, on ne fera pas le tour du sujet, le temps est trop court. Ni du sujet littéraire, ni du sujet musical, mais par contre, l'idée, c'est qu'on fasse un petit parcours dans ce 19e siècle musical et qu'on ait quelques repères, quelques jalons et puis quelques illustrations sonores. C'est surtout, je pense, la chose la plus intéressante. Alors, Faust, mais qui est ce Faust? Vous le savez, c'est un personnage multiple et ça va être ça, je pense, l'enjeu de notre voyage. L'intérêt de ce personnage complexe, c'est d'abord un personnage réel et historique qui a vécu, on le pense, au tournant du XVIe siècle. En gros, il serait né en 1480. Il serait mort aux alentours de 1540. Il a vécu en Allemagne, on parle aussi de lui en Pologne. Et donc il y a un récit historique sur ce personnage qui a fait des études, qui était docteur. Et bien sûr, sa vie, ou du moins les récits que l'on a, ont fait jaser, puisque c'est un personnage peut-être dans des univers à l'époque interlope, dans ce monde, encore dans cette fin de Moyen-Âge, où les universités défendent bien sûr un dogme. C'est le début de la Renaissance et c'est un personnage réel et en même temps qui vient de devenir une légende, qui est charnière entre cette fin du Moyen-Âge et ce début de Renaissance. Donc il est considéré comme personnage peut-être déviant, une vie déviante, puisqu'il il a été considéré, on peut le dire, comme un magicien. Il a été dans une espèce de quête de toute puissance, d'où bien sûr cette idée après ce discours légendaire sur le fait qu'il est pactisé avec le diable. Il a cherché à percer les mystères de la vie et du coup c'est un personnage transgressif dans ce 15e, 16e siècle, puisqu'il se détourne quand même des enseignements, et les enseignements des universités sont bien sûr liés très clairement au dogme chrétien. On est aussi, il faut savoir, et c'est intéressant, qu'on est en même temps en pleine période de grands soubresauts historiques dans l'Église, puisque c'est entre 1480 et 1540, et bien il y a cette période de 1520 où c'est la réforme, et bien sûr Faust, le personnage réel qui va devenir légende, est bien sûr immergé dans cet environnement-là. Alors il y a effectivement, il pratique une médecine illégale, de l'hypnotisme, illusionniste, c'est un battleur, un aventurier, il aurait eu une mort violente, on a des traces de lui éventuellement qu'on aurait vu de la fameuse taverne d'Auerbach, debout sur un tonneau. Donc vous voyez que très vite, ce personnage réel, ce docteur Faustus, devenir un personnage légendaire. Et c'est bien sûr la deuxième étape de l'évolution. Très rapidement après sa mort, que l'on estime autour des années 1530, vont naître en Allemagne de nombreux récits populaires que l'on va retrouver dans un Volksbuch. De multiples récits racontent, bien sûr, et enjolivent et augmentent. Et vous savez ce que peut devenir la parole populaire multipliée quand elle est fantasmée, exagérée. Donc du coup, très vite, ce docteur Faust passe d'un statut de personne historique, personnage réel, à un statut d'une légende. Cette légende, elle a été pas mal portée apparemment par les universités, par des étudiants dans les universités qui ont contribué à écrire ce Volksbuch. Et je vous le disais, dans un contexte, on pense qu'effectivement, quand même, ce Volksbuch, qui est une des premières étapes des récits de Faust, il est très marqué du protestantisme luthérien. Ce qui fait quand même que ce personnage, devenu un peu légende, et quand même reste toujours un personnage diabolique. C'est un personnage condamnable, qui a cédé un petit peu à deux choses, qui cède d'après dans ce milieu, dans cet environnement, on pourrait dire protestant luthérien, qui cède soit à l'épicurisme, soit aussi aux mondanités, et du coup, il est bien sûr, les récits de Faust amplifient bien sûr cette vision, condamnable au strict sens du terme. Et puis il y a, alors je ne vais pas vous faire un récit complet, on passe l'étape d'après qui est importante aussi, c'est le fait que tous ces récits vont traverser la Manche et se retrouver en Angleterre, et c'est bien sûr la figure de Marlowe, le grand précurseur de Shakespeare, personnage assez étonnant aussi, qui porte en lui-même cette dimension très faustienne peut-être. C'est un personnage apparemment, Marlowe était aussi hors norme pour l'époque, c'est-à-dire il défendait une vie hors du dogme et de la morale, Marlowe a repris cette légende de Faust et en a fait un personnage, une espèce de hyper humain, une immense humanité à travers ce personnage de Faust, et cette dimension païenne et assez outrancière, elle est présente dans le récit que fait Marlowe de Faust. Ça, c'est un troisième jalon. Et puis, bien sûr, il y a aussi une évolution dans le théâtre de marionnettes, qui est très importante aussi au XVIIe siècle en Allemagne. Et je fais vite, évidemment, je ne suis ni un expert de tout ce récit littéraire, mais on arrive, ce qui est important pour nous, à Lessing, et nous sommes au XVIIIe siècle, en plein de les Lumières, et là c'est une nouvelle étape dans la narration de ce mythe, de cette légende de Faust, dans la mesure où peut-être pour la première fois il y a une vision marquée cette fois-ci par l'esprit des Lumières, donc un nouveau regard sur la question de la morale, du rapport de la vie humaine, de cette hiérarchie entre vie humaine et vie céleste. Il y a peut-être une période vraiment où les choses s'inversent, ce grand courant philosophique aussi qui bouscule beaucoup le regard sur le dogme religieux et qui porte tout le XVIIIe siècle. Et là, Lessing propose déjà une rédemption pour Faust. C'est déjà une étape très importante. Faust n'est pas simplement condamné aux enfers. Il est, pour avoir pactisé avec le diable pour une durée, dit-on, de 24 ans. Il y a une vision, du coup, vous voyez, une vision où on imagine que Faust, eh bien, c'est l'incarnation d'une totale humanité dans sa complexité, que bien sûr, on ne peut pas séparer le bien et le mal, des personnages qui seraient d'un côté ou de l'autre, mais que ce Faust, au contraire, est l'incarnation de tous les contours de l'être humain, et il peut, du coup, être sauvé. Et puis, dernière étape, celle qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est Goethe. On est en la fin du XVIIIe siècle, et avec Goethe, eh bien, Faust va occuper toute la vie de Goethe. On dira, c'est l'œuvre d'une vie pour cet écrivain, homme de science politique allemand, cette grande figure presque qui a constitutive, on pourrait dire, d'une culture germanique au XIXe siècle. Goethe écrira un premier Faust, même un Ur Faust dans les années 1770, puis un premier Faust, je ne les ai pas amenés, je les ai chez moi, et ensuite un second Faust, avec chaque fois un grand, grand récit. Alors, sans se plonger, ça nous nécessiterait des heures et des heures, dans cette fabuleuse œuvre. D'ailleurs, c'est marrant parce que je ne sais pas quel mot employer, c'est bien ça aussi le problème de ce Faust de Goethe. C'est une œuvre multiple, à multiples facettes. Est-ce qu'on est dans le théâtre? Oui, pas complètement. On est aussi dans le premier Faust, cette écriture en vers. Donc c'est un immense poème en vers. Bien sûr, il y a un format très multiple, très disparate. Vous avez, et c'est vraiment ce que Goethe veut défendre, c'est encore quelque chose, un objet littéraire protéiforme. et qui est empreint de plein d'univers. Il y a l'univers populaire, il y a ce récit de Faust, bien sûr, mais qui est empreint de plein d'anecdotes, de plein d'épisodes. Et on est effectivement entre le théâtre, entre la poésie, entre une espèce de grand récit. Et avec dans cet ouvrage, dans cet immense ouvrage de Goethe, eh bien, la musique effectivement est très présente. Alors, juste pour ce qui nous concerne, effectivement, la période de 1770-1780, c'est une période très très importante aussi dans la musique. C'est cette période esthétique qu'on appelle Sturm und Drang, tempête et passion, orage et passion, qui est une période esthétique qui va durer une dizaine d'années, dont Goethe est un des représentants au niveau de l'esthétique, et qui va beaucoup bousculer la création artistique et qui va véritablement ouvrir les portes du 19e siècle en art et en musique en tout cas. Et dans la mesure où c'est un courant qui va bousculer, vouloir prolonger et en même temps bousculer ce courant des Lumières, on va dire ce rationalisme du 18e siècle. Et je pense que tout l'enjeu est là dans ce que nous allons écouter aussi pour comprendre ce 19e siècle. C'est un courant qui dit oui, c'est bien beau d'expliquer le monde de façon rationnelle, de vouloir comprendre la totalité du monde avec la raison. Toute cette philosophie des Lumières, hein, toute cette dimension encyclopédique très forte, et en même temps ce courant est dit mais non, l'être humain, le monde, ça ne peut pas, on ne pourra pas avoir toutes les clés des réponses au monde par le rationnel, et il faut se réconcilier aussi avec les rationnels, il faut se réconcilier avec une dimension éventuellement un peu mystique. Et c'est tout ce tiraillement, j'ai envie de dire, peut-être le 19e siècle, en musical en tout cas, et artistique, pourrait un peu se concentrer dans ce tiraillement intérieur entre mysticisme, sentiment, passion et rationalité. Et évidemment, Faust, le personnage de Faust, est au cœur de ce courant. Donc Goethe va inspirer énormément de monde, énormément de compositeurs, et on verra en même temps que c'est un problème pour les musiciens. Les musiciens et les compositeurs vont être extrêmement attirés par l'histoire, par le mythe, par la légende de Faust, par le personnage, bien sûr, et en même temps, ils vont se casser les dents sur cette œuvre assez énorme, cette œuvre littéraire assez énorme, assez multiforme, et qui elle-même déjà comporte beaucoup d'éléments musicaux. Alors, première chose, peut-être on peut écouter le premier extrait. Voilà. On va commencer peut-être avec un premier genre. Effectivement, une première tentative, c'est l'opéra. Première réponse musicale. Je dis première. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la première, puisque chronologiquement, mais en tout cas, une des réponses au 19e siècle. Nous sommes en 1816, et c'est un compositeur, Louis Spohr, qui écrit un opéra qui s'appelle Faust. Et c'est très intéressant, parce que on considère, je pense à juste titre, que c'est vraiment ça ouvre le 19e siècle de l'opéra allemand, de ce qu'on appelle l'opéra romantique allemand. Et effectivement, c'est ce Faust de Spohr qui incarne complètement cet opéra. Je propose qu'on écoute, pour illustrer tout ça, l'ouverture du Faust de Louis Spohr, 1816. Non. Thank you.
toujours une torture faire ça.
J'ai pas pu faire, j'ai pas chanté. Oui, voilà, l'extrait, je voulais commencer musicalement par cette ouverture, ça ouvre déjà, ouverture d'un opéra. Ça a été composé en 1813, créé en 1816. C'est intéressant parce que c'est Carl Maria von Weber qui dirige lors de la création de l'opéra. Carl Maria von Weber, c'est aussi l'autre grande figure du romantisme allemand, le Freischütz, premier grand opéra allemand. Et alors, le Faust de Spohr n'est pas basé sur le livret de Goethe, parce qu'en 1813, il n'y avait eu que le premier Faust qui avait été édité, et qui en 1808. Donc Spohr ne s'est pas basé sur celui de Goethe, mais sur celui de Klinger, et c'est intéressant parce que c'est aussi une autre grande figure de la littérature faustienne du XVIIIe siècle, et presque qui précède un peu Goethe, que Goethe connaissait très bien, et qui est en plein, Klinger, c'est l'une des grandes figures de ce fameux courant Sturm und Drang, qui ouvrira vraiment tout cet univers esthétique, on peut dire, du romantisme allemand. Donc, c'est intéressant, voilà, avec Spohr, on démarre vraiment sur cette espèce de base un peu, on pourrait dire, esthétique de ce XIXe siècle et de l'Allemagne faustienne. Juste un petit mot sur cet opéra, évidemment, on ne peut pas écouter en entier. Le synopsis, eh bien, il reprend les grandes lignes hein, de l'histoire de Faust, même s'il y a plein de versions, vous vous en doutez. Là, dans celui de Spohr, en fait, on a le personnage de Cunégonde qui se prépare à épouser Hugo. Et du coup, dans l'opéra, elle repousse dans un premier temps l'amour de Faust, puisque Faust s'approche de Cunégonde. Et du coup, Faust se tourne vers Méphisto pour pouvoir conquérir cette fameuse Cunégonde, d'où l'épisode du philtre qui rend Faust irrésistible. Du coup, on a une version cette fois-ci où c'est Hugo, le futur mari de Cunégonde, qui tue Faust, et l'âme de Faust est envoyée par Méphisto en enfer, et Rosine, qui était l'amoureuse éperdue de Faust, et qui a été délaissée par Faust pour Cunégonde, elle, désespérée, se noie. Donc vous voyez, on a quand même tous les ingrédients, mais on a une trajectoire qui n'est pas tout à fait celle que l'on retrouvera plus tard, puisqu'on n'a pas le triptyque avec, avec le personnage de Marguerite n'est pas encore installé, même si c'est Cunégonde qui occupe cette place. Ce qui est très intéressant aussi dans cet opéra, c'est que la grande référence à l'époque, même pour Goethe d'ailleurs, et pour cette nouvelle génération de compositeurs au tournant du XIXe siècle, la référence, c'est le Don Giovanni de Mozart. Et c'est d'ailleurs même pour Goethe, peut-être le compositeur référence. C'est intéressant parce que je crois que Schubert avait envoyé de la musique à Goethe sur des lieders qu'il a composés sur le livre de Goethe. Et Goethe n'a pas été très sensible à l'univers de Schubert. Et pour Goethe, le compositeur rêvé, c'était Mozart. Mais Mozart était décédé. Et du coup, je trouve que là, c'est intéressant dans cette ouverture. Il y a quand même à la fois, moi j'entends à la fois cet univers mozartien qui est encore très présent dans l'écriture des cordes, l'orchestre, et déjà des ingrédients de ce romantisme à venir. Par exemple, ce passage, cette rupture là dans l'extrait qu'on a écouté, vous avez ce premier thème, très enjoué, ce Faust peut-être très très vivant, en pleine vie, en pleine recherche. Et puis cette rupture, cette apparition de la clarinette, cette espèce de fugue, vous avez entendu un petit thème d'abord énoncé à la clarinette, puis le hautbois, puis le basson, etc. C'est pas vraiment une fugue, hein, c'est plutôt une écriture canonique. Et là, voilà, des couleurs, la place du corps aussi, la présence le rôle des timbales, qui à un moment donné, ces roulements de timbales qui sont très très beethoveniennes. Voilà, il y a déjà, on pose déjà les couleurs de l'orchestre, à la fois un peu encore marqué par Mozart, mais déjà les couleurs, les sonorités, les habitudes qui seront des habitudes romantiques d'un orchestre romantique. Et puis, je voulais vous faire écouter jusqu'à cette reprise, ce début un peu de développement, où on réentend le début, mais alors en musique, au début c'est énoncé en majeur, on passe en mineur, sans rentrer dans des détails techniques, mais du coup cet assombrissement de l'écriture, voilà, on a bien sûr cette façon d'écrire le personnage torturé. Donc voilà, première entrée en matière, 1813, Louis Spohr, un opéra, Faust. Il y aura bien sûr d'autres aventures dans l'opéra. Je voulais juste citer aussi. Ah oui, je voulais signaler aussi dans, chez Sport, élément très intéressant à signaler, c'est des scènes dans cet opéra, on n'a pas le temps d'écouter, des scènes où il y a une écriture un peu nouvelle, déjà un peu féerique, un orchestre un peu féerique. Ça c'est aussi quelque chose de très romantique, des façons de faire sonner l'orchestre avec des sons un peu magiques qui apparaissent déjà dans ce Faust de Sport et qui vont bien sûr influencer des compositeurs tels Berlioz, Mendelssohn, on y reviendra. Autre aventure de l'opéra, ben c'est bien sûr la France avec Charles Gounod, le Faust, 1859. Là encore, on n'est pas sur un livret de Goethe, ni encore dans la traduction de Nerval, on y reviendra avec notre ami Berlioz. Et là, opéra qui connaîtra un très grand succès. On est vraiment dans l'opéra français 1859, en plein milieu du 19e siècle. Alors, il a été accueilli un peu de façon mitigée, parce qu'il est opéra en 5 actes, qui reprend cette fois-ci vraiment la trajectoire, peut-être, je dirais classique, je ne sais pas si c'est de la vie de Faust. On a, dans un premier acte, Faust dans son cabinet, d'ailleurs on va écouter un extrait, qui convoque Méphisto pour pouvoir retrouver la jeunesse, et donc c'est le savant. Il y a un deuxième acte autour de la rencontre de Faust et de Marguerite, la kermesse, puis tout un acte autour de l'épisode du jardin, qui, avec l'apparition de Marguerite, ces moments de séduction et de conquête de Marguerite par Faust. Puis un acte dans la chambre, l'église, tous les lieux très importants, la chambre de Marguerite, l'église, la rue où Marguerite est enceinte, elle est enceinte de Faust. Marguerite tue sa mère, elle est mise en prison et c'est Faust qui, aidé par Méphisto, va aller délivrer Marguerite de la prison, mais il y a bien sûr cette grande conclusion. Marguerite ne peut pas accepter cette présence diabolique et il y a rédemption de Marguerite et Faust, lui, finit aux enfers. Donc voilà, c'est cette trajectoire, je dirais, assez classique du synopsis de l'histoire de Faust, puisque même si chacun a pu écrire différentes versions. Donc je propose qu'on écoute. Alors là, il faut que je revienne aussi. Premier extrait. Donc nous sommes dans le premier acte. Et Faust, ce vieux savant, maudite soit la science, qui est au bout du rouleau, convoque un peu de façon plus ou moins consciente ou inconsciente, il dit « Mais ce Dieu, que peut-il pour moi ?» Et là apparaît celui, bien sûr, Méphisto, qui va venir sauver, entre guillemets, Faust. Ah, on peut montrer un peu le... Ouais, j'y suis. Non, mais c'est le son. Pardon. Ah oui.
Sur l'épaule,
Voilà. J'ai progressé, moi aussi. Oui, voilà, cet extrait. Dans le premier acte, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est cette apparition de Méphisto qui lui dit c'est toi qui me fais venir. Et alors, il y a des mises en scène d'ailleurs intéressantes. Petit à petit, on a donc ce vieux personnage de Faust qui va se transformer. Hein, c'est qui demande, il veut retrouver la jeunesse. Donc ça, c'est une quête importante, bien sûr. Et puis, on a déjà ce triptyque qui se met en place avec Faust, Méphisto et Gretchen, Marguerite. Marguerite que Méphisto fait apparaître au loin, c'est l'appât, le désir, c'est l'objet de sa quête de puissance et de jeunesse retrouvée. Et petit à petit, donc Faust veut quelque chose, veut retrouver. Il va signer un pacte, mais pour pouvoir avoir accès à cette jeunesse. Et il veut quelque chose qui réunisse tout. Je veux quelque chose qui réunit toutes ces demandes, tous ces désirs. Et donc voilà, le décor est planté et on est dans ce premier acte du Faust de Gounod. On peut peut-être écouter aussi le final. Évidemment, je vous dis, c'est une conférence d'une heure. On ne va pas évoquer mon parcours de façon très très petite. Le monde musical et littéraire de Faust. Le final de cet opéra, où on retrouve ce trio Méphisto, Marguerite et Faust. Donc c'est après, dans ce moment où Faust et Méphisto vont pour sauver Marguerite, mais il faut fuir. Méphisto invite à la fuite, alerte, alerte, vous êtes perdus. Et puis, c'est là que Marguerite s'aperçoit de la présence du démon. Je vous lis, j'ai repris les dialogues. Marguerite dit, le démon, le vois-tu, là dans l'ombre, que nous veut-il, Méphisto, quittons ce lieu sombre, le jour est levé, etc., etc. Et puis Marguerite, mon Dieu, protégez-moi, mon Dieu, je vous implore, ange pur, ange radieux, portez mon âme au sein des cieux, Dieu juste, à toi je m'abandonne, etc. Et Faust, viens, fuyons, peut-être il est encore temps. Et c'est là que Faust appelle Marguerite, elle lui dit « Mais pourquoi ce regard menaçant? Pourquoi ces mains rouges de sang? Et va, tu me fais horreur. » Donc il y aura sauvetage, il y aura rupture. Marguerite appelle les cieux, elle sera sauvée. Et par contre, voilà, une voix d'en haut qui dit « Sauvée ». Et puis Méphisto qui s'adresse à Faust « Hâtons-nous de quitter ces lieux. » Et un cœur final, sauvé, Christ est ressuscité, Christ vient de renaître, paix et félicité aux disciples du Maître, Christ vient de renaître, Christ vient de renaître, Christ est ressuscité. Donc on a vraiment cet environnement, c'est très important aussi de voir dans le traitement du mythe, on est encore quand même avec Gounod dans cette vision, aussi dans cet environnement moraliste de cette bourgeoisie du 19e siècle, on fait la par des choses, on sauve Marguerite qui est victime un peu de cette manigance et de cette opération satanique. Et il y a elle ne tombe pas dans le piège au dernier moment. La lucidité, c'est de se rendre compte qu'il y a Méphisto derrière derrière la présence de Faust et on envoie Faust avec Méphisto aux enfers. Donc un extrait, si j'arrive.
Yeah.
voilà, je voulais qu'on écoute en entier ce final. Je trouve ça intéressant parce qu'on est bien ancré dans ce 19e siècle français, le côté grandiloquent, bien sûr, l'écriture chorale, ce chœur. Alors, c'est quelque chose de très très important, cette présence des chœurs qui ont ce poids avec cette dimension-là pour affirmer cette rédemption. Intéressant aussi le côté très tortueux, bien sûr, dans l'écriture, dans ce conflit entre Méphisto et Faust. Vous avez une écriture très très agitée, et le côté l'écriture de l'extase un petit peu qui apparaît quand Marguerite dit « Mon Dieu, protégez-moi, ange pur », etc. Tout ce passage, la harpe, la présence de l'écriture avec cette présence de la harpe, c'est bien sûr cette harmonie très lumineuse. On est sur des accords majeurs, etc. Une écriture très claire, et ça, je pense, c'est très intéressant parce que c'était un aspect aussi très fort dans ce 19e siècle musical, la question du fantastique ou de l'extase ou de la transfiguration, etc. Toutes ces écritures musicales vont vraiment générer beaucoup de trouvailles sonores, beaucoup d'inventions. Et là, on en a un exemple. Même s'il y a quelque chose aussi chez Gounod, voilà, cette fin, c'est quand même un peu pompier, c'est dans son époque. Le propos est, il y a quelque chose de premier degré, d'écriture au premier degré, hein, c'est très clair. Et du coup, on a bien cette vision assez moraliste, hein, de cet opéra, mais qui est un opéra quand même majeur, hein, très très important, un succès énorme. Et puis, je sais plus, je vais pas vous donner les chiffres, mais une époque, dans les années 1850, même avant l'opéra, il y avait des centaines et centaines de représentations de Faust, d'innombrables Faust. C'est pour ça que je vous dis, évidemment, je vais pas vous citer tout ce qui s'est fait ni en littérature ni en musique, c'est assez pléthorique. Mais voilà, c'est dans ce contexte-là aussi que l'opéra de Gounod apparaît. Alors, autre possibilité dans ce 19e siècle, c'est bien sûr d'éviter l'opéra, et il y a eu plusieurs, solutions d'évitement de l'opéra. Il y a deux compositeurs, je pense, qui sont très importants. Le premier, il est français, bien sûr, c'est Berlioz. Berlioz va se frotter à Faust. Berlioz est en une relation peut-être assez fusionnelle avec ce personnage. Il en fait presque il en a un regard presque quasi autobiographique. Et surtout, Berlioz prend connaissance de la traduction du Faust de Nerval que Nerval fait en 1828, je crois. Et dès 1828, enfin, dès l'apparition et de la connaissance en France du Faust de Goethe par Nerval, Berlioz s'en empare. Et il se lance lui aussi dans l'écriture donc de fragments. Et c'est un autre aspect qui me semble très très important et qui va être un peu le deuxième volet de notre voyage. C'est on quitte un peu les grandes formes, ces grandes fresques opératiques, et on va aller piocher dans ce monde de Faust, ce monde littéraire, le plus souvent chez Goethe, mais pas seulement, en se saisissant justement de fragments. En piochant quelques parties de l'œuvre, tellement l'œuvre de Goethe est monumentale, on retient certains passages. Et la notion du fragment dans le 19e siècle musical, je pense, est une notion très 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 importante, très essentielle pour comprendre aussi le romantisme musical. Et Berlioz donc écrit 8 scènes de Faust en 1828 qu'il laisse un peu de côté et qu'il va reprendre plus ou moins en les retravaillant, en les étoffant. En 1846, pour écrire quelque chose qui n'est pas un opéra, et qui s'appelle La damnation de Faust, légende dramatique. Donc c'est un opéra de concert, une espèce d'oratorio. Quel terme peut-on mettre? Et ça causera d'ailleurs beaucoup de soucis à Faust, puisque la réception de cette œuvre sera plutôt mauvaise, hein, échec. Berlioz aura du mal à s'en remettre. Et effectivement, cette damnation de Faust peut être le problème. C'est ce qui était déjà évoqué par pas mal de compositeurs. Berlioz le premier, c'était de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette œuvre si géniale et si monumentale qu'est le Faust de Goethe. Ils étaient à la fois complètement fascinés par l'univers, c'était tellement proche, je pense, des réflexions intimes, esthétiques des compositeurs de l'époque, et en même temps, quoi faire de ça? Il y a déjà de la musique dedans, et effectivement, Berlioz retient l'idée d'écrire une légende dramatique pour grand orchestre, chœur, soliste, et une œuvre assez monumentale, hein, quand même, hein, la damnation de Faust, ce n'est pas une petite chose, même si je vous dis, il y a cette esthétique du fragment, c'est-à-dire on pioche quelques scènes. Alors, je vous propose d'écouter deux extraits. Cette fameuse chanson célèbre, la chanson de la puce, donc de Mephisto, dans cet épisode, justement d'ambiance de taverne, d'ambiance populaire, d'ambiance bachique. Et ça, c'est aussi un aspect extrêmement important dans l'univers de Faust, dans cet univers multiple. Et donc, cette chanson de Méphistophélès. Attention, il y a un volume.
Allez, allez, vous êtes perdu. Si vous parlez un peu, ne m'appelle plus.
Le roi tué, dans l'ombre, l'exposé de toi, soleil de feu.
Ah non, mais excusez-moi. Pourquoi il n'a pas voulu prendre les chansons? J'étais en train de. Alors. Voilà, je préfère.
Très Dieu, messieurs, votre fugue est fort belle et telle qu'à l'entendre on se croit au seuil. Souffrez qu'on vous le dise, le style en est savant, vraiment religieux. On ne saurait exprimer mieux les sentiments pieux qu'en terminant ses prières, l'Église en un seul mot résume. Maintenant, puis à mon tour riposter par un chant sur le sujet non moins touchant que le vôtre.
Je voulais mettre cet extrait parce que je pense qu'il y a aussi, c'est une notion très importante aussi dans le traitement musical du Faust au XIXe siècle. C'est bien sûr cet ancrage très fort dans la question dans le chant, dans le populaire, la question du folkstone, ce ton populaire que l'on retrouve ici, qui est traité. La question aussi un peu du burlesque. Là, chez Berlioz, on a voilà des espèces de petits virages, des enchaînements harmoniques à la Berlioz. C'est un peu, c'est volontairement des virages un peu dangereux, on pourrait dire certains spécialistes musiciens. Mais voilà, cette façon burlesque de jouer avec les harmonies, de jouer avec de la ponctuation, avec l'orchestration aussi. Voilà, et que l'on entend ici dans ce petite chanson entre guillemets de rien du tout, avec un orchestre qui est vraiment très inventif derrière. Voilà, c'est un aspect très important aussi qui est présent, je le disais dans l'introduction, bien sûr, dans tout l'univers littéraire, dans l'univers de ce mythe de Faust, hein, dans ce Volksburg, dans toutes ces narrations, et bien sûr qui va avoir une place très très forte aussi dans tous ces fragments musicaux qui vont jalonner l'histoire musicale liée à différents épisodes de Faust. Un autre, je voulais qu'on écoute aussi, toujours chez Berlioz, la fin, effectivement, de cette damnation de Faust, avec l'épisode de la course à l'abîme, et le fameux pandémonium, cette espèce de fresque monumentale qui décrit bien sûr la chute de Faust embarqué dans cette course aux enfers, embarqué par Méphisto, puisqu'il y aura il y a deux épilogues. Il y a l'épilogue sur la terre, donc où Faust est damné et est embarqué aux enfers par Méphisto, et bien sûr un épilogue dans le ciel avec la rédemption de Marguerite. On écoute ce passage, donc course à l'abîme. Il y est. Non. Ta-ta-ta-ta-ta. Oui, voilà. Voilà. Très important, je sais pas. es-tu maître et vainqueur, Méphisto? Faust a donc librement signé l'acte fatal qui le livre à nos flammes. Voilà, je voulais qu'on écoute en entier ce passage qui est assez incroyable. Évidemment, on pense à une autre grande œuvre de Berlioz, hein, dans cette course à la symphonie fantastique, peut-être autre grande œuvre faustienne de Berlioz. Ce qui est vraiment, moi je trouve, ce qui est très très intéressant, bien sûr, il y a dans ce propos où Faust est quand même embarqué aux enfers avec Méphisto, mais alors ce rôle très très important des chœurs aussi, c'est quelque chose qui prend une ampleur très très importante, qui est présente aussi chez Goethe, hein. Il y a des textes de chœurs, bien sûr, et du coup, je pense que les compositeurs romantiques, on va en reparler un petit peu après avec Schumann et Liszt, s'emparent aussi de cet objet qui est un objet littéraire, qui devient un objet sonore, et chez Berlioz, ça devient vraiment source d'incroyables inventions musicales. On crée l'espace aussi chez Berlioz. C'est très monumental. Vous avez ce chœur qui prend la parole, qui affirme un certain nombre de choses et qui crée vraiment un nouvel espace sonore. Autre chose que je trouve très très intéressante et passionnante, c'est bien sûr l'orchestre. Du coup, cette question du fantastique, puisque avec Faust nous sommes dans cet univers fantastique, le fantastique dans le 19e siècle, qui là, du coup, se traduit avec, vous avez vu, je crois que c'est Zophiclide, dans l'extrême grave, dans des notes pédales, là, j'ai pas fait attention, j'ai pas la partition sous les yeux. Voilà, Berlioz va dans des extrêmes d'écriture, hein, d'écriture orchestrale pour créer ce chaos, créer cette l'écriture de la catastrophe, cette écriture de la chute. Et puis, en même temps, ce langage, il utilise un langage inventé, c'est aussi grande nouveauté, puisque le chœur, à un moment donné, dans le Pandémonium, a un texte qui est une langue inventée, langue peut-être satanique. Donc voilà, toutes ces sources d'invention sonore qui sont liées très étroitement à cet univers de Faust. Je vais juste, vu l'heure, je vais juste sauter un mini chapitre, c'est dommage, mais on ne peut pas tout faire. C'est l'autre grande figure, c'est bien sûr Robert Schumann, qui écrit aussi des scènes de Faust en 1844, qui sont quasiment contemporaines de la damnation de Faust de Berlioz. Et peut-être que Schumann est finalement le plus goethéen des compositeurs romantiques, peut-être que c'est celui qui est le plus proche de la sensibilité d'un Goethe. En tout cas, c'est lui qui va sauver Faust dans ses scènes de Faust, cette grande œuvre qu'il intitule Oratorio profane. Ce n'est pas un opéra non plus, ce n'est pas une légende dramatique comme le dit Berlioz, il appelle cela Oratorio profane pour chœur, voix soliste, chœur et orchestre. Et dans la construction de ces scènes de Faust, il y a toute une partie qui consiste à l'écriture de la rédemption de Faust. Donc c'est une nouveauté. Et du coup, peut-être Schumann, en tout cas, c'est un des grands compositeurs dans le 19e siècle qui aborde aussi cette thématique de Faust avec un regard beaucoup plus ambigu, beaucoup plus nuancé, beaucoup moins, peut-être, on pourrait peut-être dire au premier degré, sur l'approche diabolique de Faust. Il voit cette dimension qui est présente chez Goethe, effectivement, du tiraillement intérieur de l'être humain dans sa quête de connaissance, dans sa quête de savoir, dans sa quête d'infini, dans ces relations complexes entre le rationnel et l'irrationnel, dans tous ces tourments. Et cette vision, justement, multiple, complexe, qui n'est pas simplement, effectivement, peut-être un récit au premier degré d'une âme diabolisée, damnée, et qu'il faut condamner, et qui va mériter sa peine, puisqu'elle a pactisé avec le diable. Donc, ce qui est intéressant chez Schumann, peut-être quand même... Je voudrais finir avec... il finit ses scènes de Faust avec le... Il est beaucoup plus... Schumann va beaucoup plus piocher dans le second Faust, plus que dans le premier Faust. Et il finit notamment ses scènes avec le fameux Chorus Mysticus, on va en reparler avec Liszt, sont les derniers vers du second Faust, et ce Chorus Mysticus, qui est, alors je vous donne une traduction, les quatre derniers vers, tout ce qui passe n'est que symbole, l'imparfait trouve ici l'achèvement, l'indescriptible ici est accompli, et l'éternel féminin nous entraîne vers le haut. Donc voilà, ça c'est ce fameux chœur mystique qui conclut le second Faust de Goethe, et que Schumann choisit comme finale, comme scène finale de ses scènes de Faust. On va peut-être quand même écouter un petit bout alors par contre. Je voulais peut-être écouter juste vers la fin, pour avoir un peu l'atmosphère par là. Voilà, c'est un très court extrait pour qu'on ait quand même ce jalon très important. Et Schumann, je vous le disais, je pense certainement le compositeur le plus proche de l'univers de Goethe et de Faust, et en même temps celui qui a eu aussi beaucoup de difficultés. Même ces scènes de Faust étaient quelque chose de compliqué dans l'élaboration, même si ça a été considéré a posteriori après sa mort comme une de ses très grandes œuvres. Mais c'est d'ailleurs des choses qui sont assez peu données. Je crois que c'était donné à la rentrée à la Philharmonie de Paris, là, par Harding, il me semble, ces grandes scènes de Faust. C'est aussi une œuvre assez monumentale qui n'est pas dans l'opéra, qui est toujours dans l'idée du fragment. La notion de fragment est une notion très très chère à Schumann. Je voulais finir avec un dernier volet un peu de notre approche du 19e siècle. On a été nous avons tenu des choses très vocales jusque-là. Et bien sûr, Faust, et pas seulement Faust de Goethe, enfin cet univers de Faust a aussi eu beaucoup d'implications dans la musique instrumentale. Et je voulais évidemment évoquer peut-être la grande œuvre du 19e siècle, c'est la Faust symphonie de Franz Liszt. On est entre 1854 et 1857, donc nous sommes toujours un peu dans cette même période, hein, plein milieu du 19e siècle. Et Liszt écrit une œuvre absolument incroyable pour très gros orchestre symphonique, donc cette fameuse Faust symphonie, en trois mouvements. Et là, c'est quelque chose, je pense, de très très puissant. Le premier mouvement s'appelle Faust. On est aussi dans cette grande période, cette grande question sur la musique instrumentale. Est-ce qu'elle doit être une musique complètement abstraite, pure, ou une musique à programme? Liszt fait plutôt de partie du camp des gens qui sont pour la nouvelle musique, c'est-à-dire la musique à programme. Et le premier mouvement s'appelle Faust. Le deuxième mouvement s'appelle Gretchen, c'est Marguerite. Et le troisième mouvement, c'est bien sûr Mephisto. Donc on retrouve dans cette Faust symphonie notre triptyque. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'image que vous avez choisie, où on a ce triptyque Faust, Mephisto, Marguerite, eh bien Liszt va complètement au bout de cette idée. C'est une lecture instrumentale d'abord, dans un premier temps, purement abstraite, puisqu'il n'est pas question d'opéra, il n'est pas question de raconter l'histoire de Faust. Et en même temps, Liszt fera un ajout pour la fin de cette symphonie. Il reprendra ce chœur, donc il rajoutera un ténor et un chœur à cette symphonie instrumentale, pour ponctuer cette symphonie par le fameux chorus mysticus, ce chœur dont nous venons d'entendre l'extrait chez Schumann. Ces fameux quatre derniers vers du second Faust de Goethe, et donc une façon d'écrire aussi la rédemption de Faust dans cette symphonie. On écoute, si vous voulez bien, le début du premier mouvement. Ouvrir avec, moi ça n'a pas marché là. Parce que moi j'avais fait ouvrir avec et ça.
Aïe. On va changer. On va mettre un peu trop.
Bien joué. Normalement ça marche. Magnifique. Un vrai Faust, un magicien. c'est un début, début de la fausse symphonie très célèbre pour ce côté très très comment dire très instable dans les très mystérieux, voilà, vraiment c'est ce Faust, cette introduction et alors même d'un point de vue musical on sait pas trop où on est dans l'écriture harmonique de Faust, nous mène de point d'interrogation en point d'interrogation, tout est suspendu sans rentrer dans des détails d'écriture harmonique, mais rien n'est posé, rien n'est stable, cet orchestre extrêmement mystérieux et puis ce Faust très agité. C'est un mouvement qui dure 30 minutes, plus de 30 minutes, donc Liszt écrit fait vraiment la synthèse de toutes les pratiques, un petit peu, on pourrait dire aussi opératiques de l'époque, que l'on retrouve chez Wagner. Donc il va, dans ce premier mouvement, il décrit Faust à travers une multitude de motifs, de thématiques. Donc Faust a des visages multiples, qui sont des thèmes musicaux. Il a plein de... Faust est effectivement multifacette, et ça se traduit par ces thèmes très différents, soit ces thèmes introductifs, ce thème très agité, puis des choses qui sont un peu... qui s'envolent après dans des horizons très très différents. Il va superposer ces motifs, il va les développer à la façon, à la Wagner, on pourrait dire. Et la très très grande réussite, je trouve, de cette symphonie, ce côté assez incroyable, c'est qu'il fait un effet de miroir, bien sûr. Il y a ce mouvement central de Marguerite, de Gretchen, qui est une espèce de grande balade méditative, amoureuse, qui nous fait une grande respiration centrale, très très belle. Et le dernier mouvement, ce final, qui est une espèce, effectivement, de miroir du premier mouvement, donc Méphistophélès égale le miroir de Faust, c'est un miroir déformant, et Liszt joue complètement cette carte musicale, il va reprendre dans ce final toute la thématique du premier mouvement, mais traité de façon sarcastique, sardonique, les thèmes sont déformés, sont triturés avec le génie et le talent d'un Liszt, et d'où cette nécessité d'avoir un premier mouvement qui est très long, très riche, très dense, qui contient presque tout. Faust contient tout, c'est aussi tout le matériau de la symphonie est contenu dans Faust, et Méphistophélès n'est pas autre chose que un miroir déformant, un double de ce personnage. Donc je voulais juste qu'on écoute un petit peu 51, le début du final. Ah, il faut que je mette du son. Ça, c'est un des thèmes pam-pim, pam, qui apparaît dans le feu. Thème de Faust qui est repris encore une fois. Thank you. voulais juste qu'on finisse quand même avec... Cette fausse symphonie se termine magistralement aussi dans cette écriture de la rédemption avec ce chorus mysticus qu'on avait chez Schumann. Autre jalon avec ce chorus mysticus, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'autre, peut-être la dernière grande figure romantique et germanique, c'est Gustav Mahler et sa fameuse symphonie des Mille, 8e symphonie, qui reprend, dont le final sur la fin du Faust. Vous savez que cette symphonie, d'ailleurs un des rares succès que Mahler ait connu, immense chœur, 850 enfants, orchestre monumental, et cette symphonie qui se veut une symphonie monde pour Mahler, elle se finit avec Faust, avec cette image de Faust, avec ce chorus mysticus, dans l'idée aussi que Faust est un nouveau titan, un homme total, un homme monde, et dans ce message, non, effectivement, aussi d'une rédemption de Faust, ce qui est déjà, on peut dire, présent dans cette Faust symphonie de Liszt, et qui donne, au contraire, l'idée de ce personnage total. Voilà, on a fait un petit parcours ensemble. L'idée, c'était effectivement, nous avons commencé avec Spohr, 1813, qui incarnait cette nouvelle esthétique du romantisme allemand et de l'opéra. L'idée, c'était de voir un petit peu, on a vu ce Faust traité de façon opératique par la voix, dans la grande forme du récit. Étonnamment, on a vu aussi que finalement ça a posé beaucoup de problèmes aux compositeurs, la question de la narration, de cet objet littéraire tellement multiple, protéiforme, a posé beaucoup de soucis. Elle a été traitée de façon fragmentaire par des Schumann, par des Berlioz, et je voulais qu'on aborde aussi en partie cette question instrumentale, avec, je trouve, cet exemple assez étonnant et assez incroyable de Liszt dans ce monde symphonique, même s'il intègre, il a rajouté ce chœur final, nous montrer comment l'univers de Faust pouvait être totalement prégnant dans une écriture symphonique et en quoi cet univers, avec cette idée du triptyque et du miroir et des objets musicaux qu'on reprend pour les déformer, cette thématique de Faust a permis aussi un véritable renouvellement de l'écriture symphonique, un véritable renouvellement du langage. Vous savez que Liszt est quand même un des compositeurs qui a fait basculer, on pourrait dire, le langage musical vers le XXe siècle, mais bon, c'est des raccourcis tout ça, mais c'est quand même un personnage charnière aussi dans l'évolution de la musique, et cette Faust symphonie, je pense, incarne tout à fait ça. Et voilà, du coup, le grand paradoxe, effectivement, de ce grand format qui a à la fois inspiré et repoussé les compositeurs et qui nous a fait voir peut-être une évolution aussi dans ce XIXe siècle musical qui a peut-être aussi suivi l'évolution que l'on a pu voir dans l'œuvre littéraire entre le Faust historique légendaire du XVIe siècle et le Faust tel qu'il est revisité par un Lessing ou un Goethe au XVIIIe siècle, qui finit par devenir d'une simple personnage à la marge et diabolique, qui devient un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu, qui incarne même parfois, qui va jusqu'à incarner l'humanité complète effectivement dans sa complexité et dans ses multiples dimensions. Voilà, c'était un peu un parcours, c'est bien sûr un peu bref pour envisager tout. Je vous renvoie juste, tant que j'y pense, un excellent livre d'un ami et un conférencier qui va venir, et nous organisons en partenariat l'UTB le Conservatoire une conférence début janvier, et Emmanuel Rebel, qui est un musicologue remarquable, extrêmement talentueux et intelligent, qui a publié ce Faust, la musique au défi du mythe. C'est 200 000 fois plus riche que tout ce que je vous ai raconté ce soir. C'est extrêmement bien documenté, mais évidemment, et je vous conseille vraiment de. Ça, c'est vraiment une mine, ce livre d'Emmanuel Rebel. Et puis, du coup, vous pourrez voir, j'espère, être présent le 6 janvier au Conservatoire pour une intervention d'Emmanuel Rebel qui viendra nous parler, par contre, d'un tout autre aspect, l'Orient et le 19e siècle en musique. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis bonne soirée. Merci.
Donc, merci beaucoup. Je fais juste une transition pour rappeler qu'on va avoir une conférence au Gustave Mahler, par Madame Farinck, et on aura également Catherine Weissmann qui va nous faire son petit show avec Alma sur Alma Mahler. Évidemment, puisqu'on avait dit Gustave, on va faire Alma, évidemment. Voilà. Donc, on aura une petite séquence théâtrale, donc au mois de mars, avec Catherine Weissmann. Voilà. Merci. Bonsoir.